Latte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire d'un crime passionnel commis pendant la Première Guerre mondiale en 1917 à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. L'histoire d'une bourgeoise, Germaine Biétrix, qui tue la maîtresse de son mari. Je vous le dis tout de suite parce que vous le saurez très vite. Mais dans cette histoire, ce qui compte, c'est la fin. Je la tire d'un livre de Jean-François Fourcade, dit Coup d'âge, Crime en Pigord, aux éditions Midi-Pyrénéennes. Il sera là tout à l'heure. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire se passe donc dans la bonne ville de Lourdes, en janvier 1917. Lourdes, ça vous parle? Les Hautes-Pyrénées, là, la Bigorre, les apparitions de la Vierge, la grotte, la basilique, tout ça, les vierges en plastique. Bon, ça c'est pour le décor, parce que mon histoire est assez éloignée des jupons de la Vierge Marie. Dans l'après-midi du 29 janvier 1917, à l'hôtel Terminus, la patronne, Madame Claverie, est en train de faire le point avec deux de ses employés. Quand soudain, elles entendent un cri. Ça vient du deuxième étage, ça, non? Chambre 10, hein? Chez Madame Plissonnier. Marie va donc voir. La femme de chambre se précipite au deuxième étage. Elle arrive devant la porte de la chambre 10. Et de l'autre côté de la porte, une voix lui répond.
C'est rien. C'est passé.
C'est passé quoi? Elle n'en sait rien, mais ça la rassure. Elle s'apprête à redescendre. Et là, elle entend des pas dans la chambre. Des pas de chaussures et pas des pas de chaussons. Bon, elle redescend. Un petit conciliabule s'organise dans le hall de l'hôtel. Et si on remontait voir? Elle remonte toutes les trois. Elle frappe à nouveau. Et là, pas de réponse. Marie, va prévenir la police. Au poste de police, la femme de chambre tombe sur l'agent Arasus, de permanence. Des cris dans l'une de vos chambres? Oh, faut que je prévienne le chef, hein? Il va le chercher au cinéma Le Palace où il est en service. Le brigadier Auguste Borde fonce tout droit à l'hôtel Terminus. Alors, Madame Claverie, que se passe-t-il? Eh bien, des cris bien inquiétants, brigadier, et qui viennent de la chambre 10. Je pense qu'il faudrait l'ouvrir, pour voir, quoi. Mais la clé est sous la porte à l'intérieur. Allons voir de suite. Avec un ciseau à bois et une pince, le brigadier Borde fait sauter la serrure. Et là, oh, il des putes! Il trouve une femme, blonde, étendue sur le dos avec de grandes taches de sang sur le corsage. C'est la locataire de la chambre, c'est la veuve Plissonnier. Morte! Morte! Et à côté, assise dans un fauteuil, une autre femme, les yeux hagards, qui tremblent de tous ses membres, mais vivante, elle. Et à ses pieds, un grand couteau de cuisine. Et cette femme, Madame Claverie, la patronne, la reconnaît tout de suite, et les femmes de chambre aussi. C'est une cliente de l'hôtel, c'est la locataire de la chambre numéro 2, au premier étage, Madame Biétrix. Cette femme, le policier lui demande de venir au poste. Elle est tellement secouée qu'elle n'arrive même pas à se lever du fauteuil. Ils doivent la prendre par le bras. En chemin, elle demande à s'arrêter 8 ou 10 fois. Et à la fin, il faut même la porter. Et plusieurs fois, elle demande.
« Dites, monsieur, elle n'a pas trop mal? Ça sera rien ?»
Mais non, madame. 3 fois rien. Et donc, Germaine Biétrix, parce qu'elle se prénomme Germaine, se retrouve au commissariat de Lourdes face au patron, le commissaire Lacaze.
Alors, madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé dans cette chambre?
Eh bien, il y a quelques jours, j'ai intercepté une lettre qui était adressée à mon mari par une Gabrielle Plissonnier. Elle lui donnait rendez-vous à l'hôtel Terminus de Lourdes ce dimanche. J'ai compris que c'était sa maîtresse. Et donc j'ai décidé de venir à Lourdes. Par le train pour demander des explications à cette femme.
Avec un couteau de cuisine?
Je savais qu'elle avait elle-même un revolver. C'est pourquoi j'ai pris un couteau.
Et que s'est-il passé dans cette chambre, madame?
Oh, j'ai très mal à la tête, monsieur le commissaire. Je souffre énormément, je vous en prie. Cessez de m'interroger.
Le commissaire Lacaze accepte de mettre un terme à ce premier interrogatoire. Il écrit dans son procès-verbal
« Nous constatons que Madame Beatrix porte de nombreuses égratignures sur les deux avant-bras. Ses vêtements sont tachés de sang. La vue de ce sang provoque chez elle une crise de larmes. Ses propos deviennent incohérents. Elle s'inquiète de l'état de sa victime. Que nous lui taisons et nous supplie de ne pas l'interroger davantage. »
Le commissaire fait aussi l'inventaire des pièces à conviction, un couteau de cuisine et trois linges hygiéniques, dont deux sont tachés de sang. Réinterrogée le lendemain, à 8h, par le même commissaire Lacaze, Germaine Beatrix redit à peu près la même chose. Son but était d'avoir une explication franche avec sa rivale.
Et je regrette. Oh mon Dieu, ce que je regrette, ce que j'ai fait. Du fond de mon âme. Pas un instant, l'idée ne m'est venue de vouloir la frapper. Pas un instant.
Ce matin, madame, vous pourriez me raconter ce qui s'est vraiment passé dans la chambre.
Mais c'est que je ne m'en souviens pas du tout. Du tout.
Et elle remet au commissaire la fameuse lettre qu'elle a interceptée.
Évidemment, le corps de Gabriel Plissonnier est transporté chez le médecin légiste de Lourdes, le docteur Vergès,
qui livre ses premières constatations.
Nous avons donc 6 coups de couteau, hein? Et ici, des traces de strangulation, hein?
Eh oui, elle a aussi essayé de l'étrangler. Et le même docteur est missionné pour expertiser l'accusé. Et il faut que je vous lise 2 ou 3 passages de son rapport. Au moment où elle a accompli son acte, l'inculpé avait ses règles. J'ai visité moi-même son linge hygiénique, qui se compose de 4 serviettes de toilette tachées de sang. Et il ajoute... La menstruation peut donner lieu chez certains névropathiques à des troubles cérébraux. On a même constaté des accès de folie périodiques. Un choc moral survenu pendant la menstruation peut déterminer des désordres psychiques se traduisant par l'amnésie. Il est donc possible qu'elle n'ait pas eu pendant un temps plus ou moins long l'intégrité de sa mémoire. Ça alors, ces ragnagna pourraient expliquer son amnésie. Une information judiciaire est ouverte dans la foulée pour assassinat. Et Germaine Beatrix est déférée devant le juge d'instruction. Elle lui redit à peu près la même chose qu'au commissaire. À un détail près.
Quand je lui ai dit qu'elle devait quitter mon mari, eh bien elle m'a répondu qu'elle entendait demeurer sa maîtresse.
À l'issue, le juge l'inculpe pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Ce qui veut dire qu'elle est passible de la peine de mort. Alors maintenant, il faut que je vous explique qui sont ces gens. La victime d'abord, Gabriel Plissonnier, né Fourneau. Son mari était pharmacien, il est mort jeune, d'un cancer, en lui laissant une petite fortune. Et donc veuve, elle décide de s'installer à Besançon, où elle commence à fréquenter les salons de la bourgeoisie locale. Et c'est là qu'elle rencontre le docteur Beatrix. Car le mari Bitaroulette est un docteur de Besançon. Un radiologue, marié, c'est bien le problème, à Germaine, la meurtrière. Marié, mais infidèle depuis le premier jour, disent les gens. En menant leur enquête, les gendarmes découvrent que tout le monde est au courant. Tout le monde sait depuis le début que Germaine a des cornes. Et forcément, un jour, elle finit par la prendre elle-même. Une de ses bonnes amies qui lâche le morceau.
« Ma chérie, je dois à notre amitié de vous dire que Louis voit d'autres femmes.
Oh, c'est terrible, je sais, mais je ne pouvais pas vous le cacher plus longtemps. »
Il était temps qu'elle le sache, parce que Germaine se met à recevoir des lettres anonymes, avec la liste des maîtresses de son mari, dont cette fameuse veuve Plissonnier. Et maintenant, quand elle marche dans la rue, elle entend la rumeur sur son sillage.
Les cornes ! Les cornes !
À un moment, elle songe à divorcer, et puis, son docteur de mari lui fait des promesses.
« Je vous promets, ma chère, de renoncer à toutes ces femmes, pour vous garder vous. »
« Vous connaissez les hommes, je suppose. En connaissez-vous qui est trompé et qui ne trompe plus ?»«
Très peu, très peu. L'homme en rut est incorrigible. Croyez-en mon expérience de la vie. Bref, le docteur Beatrix ne tient pas sa promesse. »
Et là-dessus arrive la guerre de 14. Et le docteur est mobilisé et il part combattre dans l'Oise, où il est légèrement blessé par un éclat d'obus. Ensuite, il est fait prisonnier, envoyé en Allemagne, puis libéré en juillet 1915. Et à peine rentré, décoré de la croix de guerre, la fine lame reprend du service. Il retrouve la veuve Plissonnier, incorrigible. Et sa femme lui pardonne encore. Et quand en juillet 1916, le docteur Beatrix est nommé médecin-chef du service de radiographie de Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées, elle se dit « c'est bon, nous voilà débarrassés de ma rivale ». La suite nous prouva que non. Le juge d'instruction Morillon entend Germaine Beatrix à 4 reprises. Et 4 fois, elle lui dit la même chose. Sur le meurtre lui-même, elle n'a aucun souvenir. Le juge entend ensuite, sous serment, tout le personnel de l'hôtel Terminus. Et ils insistent tous sur l'état dans lequel elle était quand ils ont ouvert la porte.
Elle était totalement prostrée, dans un état d'ébriété absolue.
Mais surtout, le juge interroge comme témoin son mari, la fine lame, le docteur Beatrix. Il lui raconte que 4 jours avant le meurtre, dans le train, par hasard, il est tombé sur la veuve Plissonnier.
J'avoue que j'étais bien loin de me douter de cette rencontre. Elle m'a dit « Tu fais une drôle de tête ». Je lui ai dit « Il y a de quoi ? Que viens-tu faire ici ?» Enfin, j'étais furieux. D'autant plus que il y avait là le capitaine de gendarmerie de Bagnères. J'étais gêné qu'il me voie avec elle. Bon, finalement, elle m'a demandé que nous passions la soirée ensemble, à la maison. J'ai accepté. À condition que le lendemain, elle rentre chez elle. Mais le lendemain, elle m'a fait une scène. Elle a réclamé que je vienne la voir à Lourdes. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait une lettre pour me dire où et quand. Et le lendemain, j'ai demandé au vague-maître de l'hôpital s'il y avait une correspondance pour moi. Et il m'a dit que oui, qu'il l'avait posée sur mon bureau. Et là, je me suis dit tout de suite, ma femme est tombée dessus. Et voilà quoi. Vous connaissez la suite ? Que pourriez-vous dire, docteur, sur Madame Plissonnier, votre bonne amie ? Eh bien que c'est une femme qui voyage beaucoup, toujours seule, qu'elle porte un petit Browning dans son manchon, qu'elle est assez violente, qu'elle s'emporte facilement, mais qu'elle a bon cœur pour les malheureux. Oui, voilà.
À ce stade, le juge est parvenu à reconstituer l'enchaînement des événements qui a conduit au meurtre. 2 jours avant, le 27 janvier, Germaine Beatrix va à l'hôpital de Bagnères pour porter un costume à son mari, car il doit assister à un enterrement d'un sergent qui a été tué au front. Je vous rappelle que tout ça se passe pendant la guerre. La secrétaire l'a fait entrer dans le bureau, mais son mari n'est pas là. Alors elle décide de l'attendre. Et là, entre le vague-maître de l'hôpital.
Pardonnez-moi, madame, je dépose juste une lettre pour le docteur.
Germaine, jette un œil sur la lettre. Nom d'une pipe. Elle reconnaît tout de suite l'écriture de la mère Plissonnier. Et donc, elle ouvre l'enveloppe. Et la lettre est à l'entête de l'hôtel Terminus de Lourdes. Elle la lit, forcément. Mon passionnant aimé. Je suis donc descendu au Terminus. Jolie petite chambre très propre. Et surtout chauffage central. Je t'attends dimanche matin, comme il est convenu. J'ai été si heureuse de te revoir. Je te croyais perdu, je revis. Je bénis le hasard providentiel qui nous a fait nous rencontrer hier. Quelle délicieuse journée j'ai passée. C'était l'une des meilleures journées de ma vie. Et cette nuit, oh, cette nuit, j'en suis encore si délicieusement courbaturée. Il me semble, quand tu m'enlaces, que tu fais couler du feu dans mes veines. Je t'envoie, mon cher grand aimé, mes caresses les plus passionnées et mes baisers les plus ardents. Je te serre fort à te faire mal. Je t'aime infiniment plus que jamais, passionnément tout à toi. Post-scriptum, tâche de venir le plus tôt possible, dimanche. Voilà donc la lettre qui a tout déclenché. C'est une lettre terrible, pleine de passion amoureuse. C'est une lettre obscène en vérité, et je vous laisse avec cette question. Si vous, vous trouviez une telle lettre adressée à votre amour, que feriez-vous? Que feriez-vous? Germaine, elle, décide d'aller trouver sa rivale. Elle prend au passage un couteau de cuisine pour se défendre, dit-elle. Et elle prend le train de 18h50 à Bagnères. Elle arrive à Lourdes à 20h et décide de louer une chambre dans le même hôtel près de la gare.
Bonjour, madame. Auriez-vous, s'il vous plaît, une chambre disponible?
Oui, bien entendu. Tenez, la chambre 2, au premier étage.
Dites-moi, est-ce qu'il y aurait dans votre hôtel une cliente, une dame blonde d'une quarantaine d'années, un peu boulotte, qui serait là depuis hier?
Parfaitement, madame.
Ah, je suis une de ses amies. J'aimerais lui faire une surprise. Pourriez-vous m'indiquer sa chambre?
C'est la numéro 10, au deuxième étage.
C'est-à-dire la chambre juste au-dessus de la sienne. Depuis sa chambre, elle entend ses pas sur le plancher. Elle l'entend qui prend un bain, elle l'entend qui sort du bain, et là elle se dit, c'est maintenant. Elle monte, elle s'approche de la porte, elle s'aperçoit qu'elle est ouverte, elle entre, elles ont une discussion très vive, elle sort son couteau de son manchon, et elle la tue.
Le 15 mai 1917, 6 mois après le crime, le juge Morillon considère qu'il a bouclé son enquête. Il demande le renvoi de Germaine Biétrix devant la cour d'assises pour meurtre. Le procès s'ouvre pour 2 jours, le 18 juin 1917, à Tarbes. Un jour de canicule, et la salle, bien sûr, est pleine à craquer. Beaucoup de femmes qui tentent de se rafraîchir avec leur éventail.
La cour !
On commence par procéder au tirage au sort des 12 jurés. Et ma foi, il n'y a que des hommes. Parce que pour être juré, il faut être électeur. Et en 1917 en France, les femmes ne votent pas.
Monsieur le greffier, je vous prie, veuillez procéder à la lecture de l'acte d'accusation.
Et après, le président Truchy s'adresse à l'accusé avec beaucoup de tact, beaucoup de courtoisie. Elle raconte sa vie conjugale difficile, ses humiliations, ses pardons, les promesses non tenues de son mari, la découverte de la fameuse lettre, et finalement la discussion très vive qu'elles ont eue dans la chambre.
Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je voulais juste avoir une explication. À un moment, elle m'a dit que quoi qu'il arrive, elle resterait la maîtresse de mon mari. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. À partir de là, je ne me souviens plus de rien.
Elle est touchante. Et dans la salle, on compatit à sa détresse de femme trompée.
Et quand les témoins viennent raconter à quel point elle a été humiliée par son mari, on entend des sanglots dans le public. L'une des domestiques du couple Beatrix vient à la barre.
« Oh ben, madame m'a dit plusieurs fois, si j'avais pas d'enfant, je voudrais mourir. »
Et là, même les jurés se mettent à pleurnicher. Mais le moment le plus marquant, c'est quand un ami du couple Beatrix, un avoué de Besançon, maître Perrin, vient témoigner à la barre. C'est lui que Germaine Beatrix avait chargé des formalités de divorce auxquelles elle avait finalement renoncé.
Je tiens à préciser ici en préalable que les époux Beatrix dont je suis l'ami, et par ailleurs le conseil, m'ont relevé de mon secret professionnel. Ce qui, bien sûr, m'autorise à témoigner des confidences qui m'ont été faites. Lorsqu'en 1912, Madame Beatrix m'a demandé de provoquer le divorce, c'est moi qui suis intervenu pour rétablir l'union entre eux, en accord avec Monsieur Beatrix. C'est moi qui suis allé voir Madame Plissonnier pour lui demander de cesser sa relation. Et vous savez ce qu'il en est advenu. Et Germaine a vécu cela comme une provocation, comme une torture morale. Je vous remercie, maître. Bien, je vais procéder maintenant à la lecture d'une lettre écrite par Madame Beatrix à son mari en mai 1916, pour en quelque sorte le supplier de revenir à elle. Et en préalable, je dois dire ici que dans toute ma carrière de magistrat, je n'ai jamais lu de lettre plus belle, plus noble, et même, je dirais, plus sublime. Je lis. Mon cher Louis, je ne fais que songer au nouveau chagrin que tu me causes. Je m'y attendais si peu. J'avais en toi une si grande confiance que j'en demeure anéanti. Malgré tes serments, tu as donc revu ta maîtresse, et j'en ai été plus cruellement atteinte que je ne saurais le croire. Comme d'habitude, mon pauvre grand, tu n'as pas beaucoup réfléchi à ce que pourraient te coûter les caresses de cette vieille femme. Malgré cela, je veux pourtant te parler de pardon, car je t'aime mieux qu'autrefois. J'espère que toutes ces paroles que j'écris avec mon pauvre cœur malade te toucheront et que tu me reviendras avec des mots de regret et autre chose que de vagues promesses. En attendant, veux-tu me laisser t'embrasser longuement et tendrement, comme tu sais que je t'aime.
Quand le président termine la lecture de cette lettre d'amour, il a lui-même les larmes aux yeux. Et dans la salle, les gens pleurent comme des madeleines.
L'audience est suspendue et le reprendra demain matin à 7h.
Le lendemain matin, la salle est à nouveau pleine à craquer. Et le président Trugy donne la parole à l'avocat général pour son réquisitoire. Tout le monde est impatient de l'entendre. Qu'est-ce qu'il va demander ? Quelle peine va-t-il requérir ? Dira-t-il que Germaine est un assassin ou qu'elle a donné la mort sans intention de la donner ?
Monsieur le Président, messieurs les jugés, il me semble que le cœur d'une femme recèle des trésors insondables, des tempêtes terribles qui viennent comme un coup de foudre bouleverser les meilleures tendresses et les foyers les plus unis. On commence par un flirt, mais en amour la pente est si glissante que les passions une fois déchaînées, il est bien difficile de se ressaisir.
On comprend tout de suite que l'avocat général lui-même a été touché par la dame. Il est tout en modération, tout en réserve. Et à la fin, il ne demande pas expressément de peine.
Vous la déclarerez coupable, bien sûr. Il ne faut tout de même pas oublier que dans cette affaire, une femme a été tuée.
incroyable mansuétude de l'avocat général. À ce rythme, ils vont tout de même pas la quitter. Puis vient la plaidoirie de l'avocat de Germaine, maître Paul Dangos.
J'ai senti comme un souffle de réconfortante sympathie parcourir cette salle d'audience. Elle nous a fait chaud au cœur. Et elle a fait chaud au cœur à ma cliente, je le sais. Si bien que je vous adjure, messieurs les jugés, d'entendre cette compréhension qui est la nôtre et qui semble être la vôtre. Acquittez-la. Acquittez-la au nom des souffrances qu'elle a endurées.
Acquittez-la? Une femme qui a donné 6 coups de couteau à une autre femme? Acquittez-la? Avant que les jurés ne se retirent, le président leur lit la liste des questions auxquelles ils devront répondre.
Première question. Germaine Bietrix est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Madame Gabrielle Plissonnier? Deuxième question. Ce crime a-t-il été commis avec préméditation? Troisième question. Germaine Bietrix est-elle coupable d'avoir volontairement porté des coups et exercé des violences sur Madame Gabrielle Plissonnier? Enfin, quatrième question, ces coups ont-ils entraîné la mort sans intention de la donner? Le jury peut se retirer et l'audience est suspendue.
La sonnerie retentit une heure plus tard, et dans la salle pleine à craquer, les 12 jurés reprennent leur place dans un silence de mort. Le premier juré se lève.
Aux 4 questions posées, les jurés, à la majorité d'au moins 8 voix, ont répondu non.
Non ! Non ! Tous ceux qui connaissent la machine ont compris. Mais c'est au président d'annoncer le verdict.
Madame Bietrix, vous êtes acquittée de la totalité des chefs d'inculpation.
Dans la salle, les gens se mettent à applaudir et à pleurer. Germaine est acquittée. Dans la foulée, on la reconduit à la prison pour qu'elle prenne ses affaires. Et elle rentre chez elle, à Bagnères, où son mari l'attend, un peu gêné sans doute, parce qu'en acquittant sa femme, on dit que le salaud, c'est lui. Et après? Eh bien après, arrive l'armistice de 1918, la fin de la guerre, et les époux Bietrix retournent à Besançon. Le docteur s'installe en libéral, et il se lance en politique. Mais, évidemment, il n'a pas changé. Il continue de tromper sa femme. Et en 1921, il divorce. Lui est élu conseiller général, puis député, mais dans le mauvais camp, le camp des antisémites et des anti-francs-maçons. Pour parfaire sa carrière, il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Le déshonneur jusqu'au bout. Merci, merci. Trois fois merci à vous, Jean-François Fourcade, dit Coudache, pour ce livre Crime en Bigorre, dont je viens de tirer une fois de plus une histoire extraordinaire. Ce livre paru aux éditions Midi Pyrénéennes. Incroyable verdict, bien sûr, un peu difficile sans doute à comprendre aujourd'hui. Il faut expliquer peut-être, Jean-François Coudache, quelle est la mécanique qui est à l'œuvre à l'époque. Les jurés délibèrent seuls.
Oui, alors il y a plusieurs raisons qui expliquent l'acquittement. La première raison, c'est déjà la composition du jury. le jury, ce sont 12 hommes. Les femmes ne seront jurées qu'à partir de 1941. Deuxièmement, comme vous venez de le dire, à l'époque, les magistrats professionnels, c'est-à-dire le président et les deux assesseurs, ne participent pas au délibéré sur la culpabilité. Ils ne participent qu'au prononcé de la peine, de sorte que ce sont les jurés seuls qui sont amenés à dire s'ils sont coupables ou pas.
Vous voulez dire par là, Monsieur Fourcade, que un président, aurait orienté le jury vers une culpabilité à minima?
Ça ne fait aucun doute. Aujourd'hui, Madame Beatrix ne serait pas acquittée. Elle serait condamnée à une peine légère, mais elle serait condamnée. Les magistrats professionnels faisant comprendre malgré tout aux jurés populaires qu'il y a des faits qui sont criminels et qui doivent être sanctionnés. Alors, un autre motif qui pourrait expliquer la décision d'acquittement, c'est l'impact des avocats de la défense à l'époque qui arrivaient à retourner un jury complet. Par leur seul talent, ils arrivaient à retourner le jury. Et dernier point, à l'époque, et encore jusqu'en 2010, il faut savoir que les jurés n'avaient pas à motiver leur décision. Le président des assises, lorsque les jurés se retiraient, ne faisait que leur dire « vous devez juger en votre âme et conscience. Avez-vous une intime conviction ?» Même si les faits sont établis, les jurés pouvaient, sans craindre quelque critique que ce soit, dire « mon intime conviction, c'est qu'elle n'est pas coupable ».
Je ne suis pas sûr de vous avoir compris sur le fait que le jury est essentiellement constitué d'hommes. Des hommes pardonnent à des hommes, moins facilement à des femmes, c'est pas évident comme raisonnement.
Eh bien, peut-être que des femmes auraient été plus sévères, parce que la victime était une femme. Et peut-être que les hommes se sont montrés bienveillants en réaction au mari infidèle qu'ils ont voulu quelque part sanctionner. Mais à mon avis, la décision d'acquittement est une décision, j'allais dire, de compassion. Voilà. Il ne faut pas chercher du droit là-dedans. Au niveau des faits, il y a bien meurtre, il y a bien assassinat, puisque cette dame, elle est quand même venue de Bagnères, elle a pris
avec
le train,
couteau.
Elle a pris un couteau, elle a pris le chambre, donc il y a bien préméditation. Mais les jurés ont dit, non, dans notre âme et conscience, elle n'est pas coupable, et donc ils avaient le droit de juger comme ça. Mais bien évidemment, aujourd'hui, ça ne serait pas possible.
Comment avez-vous ressuscité cette histoire, Jean-François Fourcade? C'est de votre livre « Crime en Bigorre » aux éditions Midi-Pyrénéennes que je l'ai tiré. Comment l'avez-vous retrouvé aux archives départementales?
Voilà, alors c'est de cette façon que je procède. Je vais aux archives départementales et toutes les affaires criminelles sont classées par ordre alphabétique et jusqu'en 1958, en face de chaque affaire, il y a marqué la lettre T pour Tarbes, L pour Lourdes et B pour Bagnères, parce qu'il y avait un TGI à Tarbes, à Lourdes et à Bagnères. Et pour ma part, je m'intéresse presque exclusivement aux meurtres qui se sont passés à Bagnères de Bigorre, puisque ma famille paternelle est issue d'un petit village à côté de Bagnères de Bigorre. Donc il me suffit d'aller aux archives départementales, de demander à consulter les crimes qui se sont passés entre... Généralement, je travaille sur la période du début du 20e, fin du 19e, jusque 1930-1940.
Ça doit être assez émouvant tout de même de rouvrir ce dossier que probablement personne n'a rouvert depuis 1917.
Ah non, c'est une affaire qui n'avait pas marqué les esprits, comme l'affaire de la lessiveuse dont vous avez parlé il y a quelques mois. Cette affaire de la lessiveuse a laissé beaucoup de traces et on en parle encore. Tandis que l'affaire de Madame Beatrix, personne n'en parle. Et si j'ai repéré cette affaire, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, pour la qualité de la lettre que vous avez lue, écrite par la maîtresse à son mari. C'est une lettre extraordinaire, c'est une lettre qui est magnifique et pleine d'amour, comme vous l'avez dit. Peu de femmes écrivent des lettres d'amour de ce style. Donc c'est pour ce premier motif, et également par le fait qu'il y a un acquittement derrière, alors que les faits étaient absolument constants et parfaitement établis et reconnus même par la personne.
Vous parlez de la lettre de Gabriel Plissonnier.
À la lettre de Gabriel Plissonnier.
Elle est d'un érotisme torride. Elle dit quand même, je suis toute court battue.
Lorsqu'elle rappelle la nuit qu'elle a passée avec son mari la veille, Parce que lorsque la femme, Madame Beatrix, découvre la lettre et qu'elle la lit, elle apprend, alors qu'elle croyait que son mari avait cessé depuis des mois de voir cette femme, elle apprend qu'ils ont couché ensemble la veille dans un hôtel à la maison.
Oui.
Et elle lui écrit à son mari en lui disant « Quelle nuit, j'en suis encore toute délicieusement courbaturée. C'est une lettre extraordinaire. » Donc c'est pour une des raisons et pour l'acquittement que j'ai choisi cette affaire qui sort un petit peu du commun, qui est hors du commun.
La lettre d'amour de Germaine Beatrix, écrite antérieurement au meurtre, est-elle aussi assez touchante parce que elle pardonne encore. Et d'ailleurs, elle a manifestement joué un rôle dans la conviction des jurés, cette lettre.
Oui, c'est une femme au grand cœur, c'est une femme qui a été humiliée, c'est une femme qui a toujours aimé son mari, qui a toujours essayé de le récupérer. Ils ont eu un enfant ensemble, donc plusieurs fois elle lui a dit pour le petit, il faut que tu reviennes. Elle l'a pardonné parce que là on parle de la veuve Pissonnier, mais il en est passé d'autres des femmes, hein. Il en est passé d'autres. Et il y a même une lettre anonyme adressée aux gendarmes, disant que le docteur Beatrix aurait même fait avorter une de ses patientes. Et tout ça, ça circulait en ville à Besançon.
Qu'il avait lui-même, comme on disait à l'époque, engrossé.
Oui, absolument, bien sûr. Et à Besançon en 1917, c'est pas Besançon aujourd'hui. Besançon en 17, c'était une petite ville de province moyenne et tout se savait. Et la femme d'un médecin reconnu, je crois que le père de Madame Beatrix était juge consulaire au tribunal de commerce de Besançon. C'était quelqu'un d'en vue. Donc le fait de se sentir humiliée, eh bien, elle aurait pu divorcer de suite. Mais elle ne l'a jamais fait, sauf en 1934, tout à la fin de sa vie. Donc c'était une femme parfaite, et je veux comprendre qu'elle ait fait pleurer les membres du jury, qu'elle ait fait pleurer l'assistante. C'était pas de la comédie, c'était de la sincérité, et je suis persuadé qu'elle ait continué à aimer son mari. C'était une d'un côté le bien, et de l'autre côté le mal. Et je pense que les jurés ont voulu privilégier le bien et la victime. Et la victime, c'est pas la veuve Pissonnier, la victime pour les jurés, c'était Madame Beatrix, ce qui paraît paradoxal.
Est-ce qu'il vous est arrivé, Coudage, que après la publication de vos livres, vous en avez écrit plusieurs, celui-là date d'une quinzaine d'années, que des familles vous écrivent en disant « Je suis un descendant, je sais pas, de Madame Beatrix, un descendant de Madame Pissonnier, vous me révélez toute une histoire que je ne connaissais pas moi-même ».
Alors, ça m'est arrivé une fois, à l'occasion d'une séance de dédicace que j'ai faite à Bagnères-de-Bigorre, une personne vient de me dire « Mais dans votre livre, il y a eu un meurtre qui s'est passé à Argelès-Gazost, à côté de Lourdes. Vous ne citez pas le prénom de celui qui a été assassiné. Vous l'appelez Monsieur X. Quel était son prénom ?» Oh, je lui dis « Pourquoi vous me demandez ça ?» Elle me dit « Parce que moi j'avais un grand-père dont on m'a jamais dit très bien comment il était mort. » Alors je lui dis « Écoutez, je vais vous répondre, je prends les notes de mon dossier, je lui dis « Ben voilà, il s'appelait Monsieur Vincent Tapie. » Il me dit « Oh, c'était mon grand-père. J'apprends par votre livre que c'était mon grand-père qui avait été assassiné il y a 50 ou 60 ans. » Donc voilà, c'est arrivé une seule fois que quelqu'un se reconnaisse dans l'un de mes livres. C'est la seule fois.
Dans le cas présent, si quelqu'un d'une famille Beatrix se reconnaît dans cette histoire, j'adorerais le savoir, j'aimerais avoir son retour. Je vous remercie du fond du cœur.
Je vous en prie, monsieur Andelat, avec plaisir.
Jean-François Fourcade dit Coudage pour ce livre Crime en Bigorre où j'irai encore picorer sans doute quelques histoires. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel parce que des Jean-François Fourcade, normalement, il y en a à peu près dans toutes les régions de France qui ont publié parfois chez de tout petits éditeurs des livres que nous ne voyons pas, que nous ne repérons pas. Je vous en supplie. Appelez-nous, envoyez-nous ces livres. Si vous avez trouvé ces livres que votre grand-père a écrits au début du XXe siècle, envoyez-les nous et nous ressusciterons ces histoires souvent oubliées.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.